Les Rolling Stones racontés comme votre vie même. Un feuilleton de François Bon. 12. One plus One. Désintégration de Brian Jones.
De Jean-Luc Godard filmant en 1968 les Rolling Stones en studio jusqu'au décès de Brian Jones par noyade. Passons par quelques mystères non éclaircis.
Le cinéma a toujours été une tentation forte. Les Beatles ont fait Magical Mystery Tour, Yellow Submarine. Alors, quand Jean-Luc Godard propose de venir les filmer, ils ont peu d'hésitation. Jean-Luc Godard a tourné avec Brigitte Bardot, c'est une référence. On n'oublie pas de lui faire payer 20 000 livres, payables d'avance, et on lui fait signer un papier comme quoi le contrat reste valable, même en cas d'indisponibilité de Brian. On a voulu rapprocher Street Fighting Man des événements qui, ce mois de mai 1968, secouent la France en profondeur.
Please let me introduce myself. I'm a man. Well. Been around here for many a long, long year. So many a man, so hey.
Mais aux États-Unis, Martin Luther King organise sa marche des pauvres. L'été 67 a été celui des émeutes dans les ghettos noirs. Et ce 4 avril 68, Martin Luther King est assassiné. Pour la première fois, une chanson des Rolling Stones fera allusion directe à l'ordre du monde et de quel côté on s'y trouve, quitte à souligner qu'on est à Londres, où il ne se passe rien de tout ça.
Cause in sleepy London, there's just no place for street fighting men.
Mick a surtout l'intuition rare, bien plus surprenante, que dans ces conflits qui gagnent, son statut de musicien est sa seule légitimité.
What a poor boy do, except to sing for a rock and roll band.
Street Fighting Man sera interdit pendant 2 ans sur toutes les radios américaines.
Moi, je suis pas un politicien, je suis musicien. J'ai les sympathies pour les politiques, mais tous les ismes, ça m'intéresse pas. Il faut, je suis un musicien, pas un politicien.
Les Stones ont passé tout le mois de mai à enregistrer, et on a bouclé le disque quand le 6 juin 68, Jean-Luc Godard investit pour 4 nuits le studio olympique. Marianne Faithfull a lu à Mick le début d'un roman de Bulgakov, The Master and Margarita, dont la première phrase est « Permit me to introduce myself ». L'idée qu'on soumet à Godard, c'est un rythme de samba qui s'appellera « The Devil is my name » et dont la première phrase sera « Please allow me to introduce myself. » Le film de Jean-Luc Godard, One plus One, fascine parce que la musique se cherche. Nicky Hopkins à l'orgue, puis au piano, Richards à la guitare acoustique, puis à la Gibson 5 cordes, puis définitivement à la basse. Et Charlie Watts, qu'on pousse, qu'on contraint à reprendre, jusqu'à ce fragile équilibre hypnotique. Et la fatigue qui s'installe, les pauses où on s'échange des cigarettes, et le morceau qui prend forme. Question, si Jean-Luc Godard n'avait pas été là, 4 nuits de suite, pour filmer la gestation de Sympathy for the Devil, les Rolling Stones auraient-ils été jusque-là de leur invention? Après, c'est comme la bicyclette, on sait faire. Les trois disques qu'ils vont enchaîner en 3 ans, Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main Street, garderont ce niveau de crête. Mais personne pour leur avoir posé la question. One Plus One est aussi une fiction. Un personnage féminin, Anne Wiazemski, parcourt les rues de Londres en dessinant des graffitis.
C'était plus en tant que vedette musicale et personnages musicaux d'un type différent que les autres, mais il y avait chaque fois c'était déjà des doubles histoires. Simplement la musique, puis une autre histoire, et que la musique accompagnait et racontait aussi quelque chose de l'autre histoire à sa façon.
Le producteur du film fera une version longue sans Wiazemski, mais avec toutes les étapes des Rolling Stones. Godard fera un procès pour que seule sa version soit diffusée. Dommage. Étrange, les photographies en noir et blanc du petit homme chauve à cravate, serrant la main des jeunes beatniks à guitare. On ne sait pas s'ils ont perçu la qualité du regard posé sur eux, la capacité de Godard de s'attarder sur une façon d'allumer sa cigarette, sur un mouvement de hanche, ou sur ses techniciens qui bavardent de l'autre côté du paravent en même temps que le groupe reprend et reprend. Surtout, on dirait que ce que comprend Jean-Luc Godard, c'est ce qu'il advient ces jours-ci de Brian Jones. Enfermé dans un box isolé, il joue, du début à la fin, la même partie de Gibson acoustique encore et encore. Pourtant, à aucun moment on ne l'entend. Inaudible, Brian est noyé dans le milieu du groupe indifférent, déjà absent, déjà mort. C'est au printemps 69 que Brian achète Cotchford Farm, la maison de Winnie l'ourson. Il ne vient plus à Londres. Avec ses condamnations, plus question pour lui d'entrer aux USA, et les Stones veulent tourner. Alors, le 5 juin 1969, la Bentley conduite par Tom Kellogg dépose Keith, Mick et Charlie Watts à Cotchford Farm. On trouve un arrangement, 100 000 livres pour Brian et un communiqué de chaque côté, disant qu'on se quitte bons amis. Brian Jones ne fait plus partie des Rolling Stones. Mais sur ce qu'on en pense, voici ce qu'en dit Keith Richards, 2 ans plus tard.
Il picolait et s'avalait des barbituriques par-dessus ses problèmes respiratoires. C'est pas mal de fois qu'on l'a vu s'étouffer dans un coin, se pompant à l'inhalateur dans la bouche. On en était au point qu'on ne pouvait plus le ramener vers nous. Le seul moyen, c'était dire « Désolé, petite queue, t'es fichu dehors. »
Il paraît que Brian, à leur départ, s'effondre en pleurant. Mais Brian a toujours eu la larme facile. Il semble pourtant renaître, Brian. Il a des instruments, un studio. Et chaque après-midi, des musiciens défilent pour qu'on joue ensemble. Il s'entend bien avec la cuisinière de Cotchford Farm, Miss Hallett, et le jardinier. Il semble heureux. Brian fait des travaux. L'homme qui en a la charge s'appelle Frank Thorogood. Au départ, un des chauffeurs embauchés par Tom Kellogg. Ce soir-là, ils sont 4 à Cotchford Farm. Brian et sa dernière conquête, une jeune étudiante suédoise qui s'appelle Anna Volin, Thorogood, et sa propre compagne, une infirmière du nom de Janet Lawson. Thorogood doit se réconcilier avec son patron, après leur dispute sur les fausses factures, ne serait-ce que pour continuer à le pressurer. Il achète au village pour eux 4, 2 bouteilles de vodka, une demi de whisky, une demi de brandy, plus du vin, la dose quotidienne. On est au mois de juin, un mois de juin très chaud. Brian n'est pas habitué à la campagne, il souffre d'allergies et d'asthme. On regarde une émission de variété à la télévision et sur le tard, il propose d'aller plonger dans la belle piscine de Cotchford Farm, la première fois qu'il dispose de ce luxe. Brian n'est pas un grand nageur, mais il a toujours été un bon plongeur. Lors des tournées, à Hawaï ou en Australie, il l'a souvent montré aux autres Stones. Est-ce un jeu qui commence entre les 2 hommes à bout d'alcool, dont un qui souffre d'asthme? Dans une version tardive, 20 ans plus tard, Sorogood prétend qu'il y avait d'autres types avec eux ce soir-là.
Alors Brian essaie de sortir de la piscine, mais eux, ils ne le laissent pas. Continue de le fiche sous l'eau. Et alors, c'est devenu très dur. Ces types vraiment repoussant Brian encore plus à mesure qu'il résistait. Je veux dire, à le débiner et lui faire boire la tasse. Le maintenir sous la flotte et juste en le laisser respirer une paire de secondes et lui, haleter, et que ça recommence. C'est devenu vraiment fou. Et la dernière chose que j'ai entendue, c'est quelqu'un crier « Il s'est noyé, on se tire d'ici !» Et on s'est tous défilés. On est remontés dans nos bagnoles à toute allure et on s'est tirés. Ils le haïssent d'être riches et de ne rien faire, d'avoir ces jolies filles autour et toutes ces fringues supermodes. Et d'avoir à travailler pour lui, d'avoir à bosser pour si peu de fric, lui, à les surveiller derrière, les traiter comme de la merde.
The rehearsal before, what was that beat that we were doing? What was that all about? Yeah, what is that? It's like completely different.
On peut aujourd'hui considérer ce récit comme vrai, à condition de remplacer par Frank Sorogood lui-même le « il » au pluriel de son récit. Un jeu d'imbéciles. Un homme debout sur le bord d'une piscine, un autre dans l'eau, et le premier qui, pour jouer, enfonce la tête du second, ne comprend pas l'asthme, ne comprend pas la détresse, ni le regard. Quand l'autre ne bouge plus, il le laisse, revient à la maison, pensant que c'est assez joué.
You shouldn't have left him. Brian's all right. Brian's drunk. Tu n'aurais pas dû le laisser. Et il est très bien, Brian. Brian est bourré.
Les Stones sont en répétition au studio olympique. Janet Lawson téléphone à la femme de Kellogg qui prévient le studio. Mais Kellogg est parti à Redlands, envoyé par Keith, chercher des guitares. Quand il revient, Charlie Watts pleure. Les autres sont prostrés. On a prévenu Bill Wyman, déjà rentré à son hôtel. On a prévenu aussi les avocats et on envoie Lesperin et Kellogg à Coachford Farm. La police est déjà là, ils ne peuvent pas entrer. On a prétendu que c'est un accident.
Death by misadventure. Mort accidentelle.
À l'autopsie, on lui trouve un foie qui fait le double du volume normal. Alors on ne prolonge pas l'enquête. C'est sur son lit de mort, récemment, que Frank Sorogood a convoqué Tom Kellogg pour lui faire l'aveu. I did, Brian.
About midnight, Jones went for a swim with his Swedish girlfriend, Anna Volin, and another friend, Mr. Frank Thorogood. After a time, Mr. Thorogood and the girl went back to the house. When they returned, they saw Jones at the bottom of the pool, and they pulled him out.
Charlie phoned me up. Phone went about 3 a.m, and I just, like, got off to sleep after about an hour. Charlie phoned me up, and he just said, Brian died. I can't believe it, you know. Then Mick flew to Australia to do Ned Kelly. Keith was working in the studio. Me and Charlie went to the funeral. When we drove through Cheltenham, all the streets were packed with people. I'd never seen anything like it. It was like a coronation or something, you know.
La suite est aussi triste. On découvre à Brian d'énormes dettes, 200 000 livres. Puis l'année suivante, quand Cynthia Stewart fera l'inventaire des affaires de Brian en dépôt chez ses parents à Cheltenham, c'est pour découvrir qu'il n'y a plus d'archives, ni bandes magnétiques, ni instruments de musique. Même les tapis anciens ne sont pas là. On remontera la piste jusqu'à un mystérieux camion de déménagement évaporé, venu quelques jours après le décès embarquer les affaires. Dès l'enquête faite, Keelock reconduit à l'aéroport Anna Wåhlin, l'étudiante suédoise qui avait partagé les trois dernières semaines de Brian. Épouvantée encore, elle ne demande qu'à fuir. Lui donne-t-on un chèque pour se taire ? 2 ans plus tard, dans une longue interview au mensuel américain Rolling Stone, Keith Richards prouve que les Stones sont largement au courant de ce qui s'est passé, même en laissant toute une série de peut-être.
Well, what the fuck's going on? We had these chauffeurs working for us, and we tried to find out. Some of them had a weird hold over Brian. There were a lot of chicks there, and there was a whole thing going on. They were having a party. I don't know, man, I just know what happened to Brian that night. We were completely shocked. I got straight into it and wanted to know who was there and couldn't find out. The only cat I could ask was the one I think who got rid of everybody and did the whole disappearing trick. And so when the cops arrived, it was just an accident. Maybe it was. Maybe the cat just wanted to get everyone out of the way so it wasn't all names involved, etc. Maybe he did the right thing. I don't even know who was there that night, and trying to find out is impossible. In those 2 weeks, he'd had musicians down there every day. He was rehearsing. Some very weird things happened that night. That's all I can say. Bon, qu'est-ce qui s'est passé comme merdier? On avait ces chauffeurs qui bossaient pour nous. On a essayé d'y voir clair. Certains d'entre eux avaient une drôle d'influence sur Brian. Il y avait des filles là-bas, et quelque chose en train, ils ont fait la fête. Je sais pas, moi. Je sais vraiment pas ce qui est arrivé à Brian cette nuit-là. On était complètement sous le choc. Le seul type à qui je pouvais demander était celui qui s'était débarrassé de tout le monde et avait fait disparaître tous les trucs, et comme ça, quand les flics arrivaient, c'était juste un accident. Peut-être que c'en a été un. Peut-être que le gars voulait juste que tout le monde s'en aille. Comme ça, il y aura moins de monde dans l'histoire, etc. Peut-être qu'il a fait ce qu'il fallait. Je ne sais même pas qui y était cette nuit-là. Et le retrouver maintenant, ce n'est plus possible. Les 2 dernières semaines, Brian faisait venir des musiciens tous les soirs. Et répétait. Et il s'est passé des trucs bizarres cette nuit-là. C'est tout ce que je peux en dire.
Des trucs bizarres, oui. Mais la justice anglaise, qui n'avait jamais réussi à mettre les Rolling Stones en prison, ne rouvre pas l'enquête. Ian Stewart, Charlie Watts, Bill Wyman et leurs compagnes sont à l'enterrement de Brian, à Cheltenham. Ou c'est Tom Keelock, qui soutient la sœur de Brian. Keith Richards ne s'est même pas déplacé. Mick Jagger et Marianne ont envoyé un bouquet. Ils se sont envolés la veille au soir pour l'Australie. Les Rolling Stones racontaient comme votre vie même, un feuilleton de François Bon, texte anglais par Judith Allison, équipe de réalisation, Jean-François Néolier, Catherine Déreté, Julien Douminc, Olivier De Canis et Jacques Taroni. Please allow me to introduce myself, I'm a man of wealth and taste.